de maison.
Je m'appelle Julie.
Mmh.
J'ai 32 ans bientôt. J'habite à Annonay depuis 5 ans et demi et je m'en vais dans une semaine.
Julie est chercheuse postdoctorale et passionnée de radio. En 2017, alors que l'envie me brûlait de lancer mon propre podcast, elle m'a accompagnée et encouragée par son expérience et ses compétences radiophoniques. Dès le début de Café Simone, en janvier 2018, il était évident pour moi qu'un jour j'allais l'inviter pour réaliser son portrait. Les mois passant, je ne faisais que repousser l'échéance pour la solliciter. Il faut croire que je m'étais mis beaucoup de pression en cela, car aussi bien à la radio que devant une assemblée, Julie a cette éloquence qui m'intimide autant qu'elle me laisse admirative. Presque 2 ans plus tard, en novembre 2019, elle m'annonce qu'elle va partir d'Annonay pour Dunkerque. Pas la porte à côté, c'était donc le moment ou jamais de prendre un dernier café avec elle. Mais manque de peau, je n'avais plus de café, alors nous avons bu du thé. Très bonne écoute.
À Bordeaux en 1988, quand mes parents avaient terminé leurs études et avaient moyennement commencé à travailler un petit peu, voilà. J'ai très peu de souvenirs de Bordeaux, j'ai dû vivre un an ou deux. J'ai des souvenirs de balades en vélo avec ma mère dans les forêts de pins. Et puis quand j'y vais là-bas, je connais très mal la ville, mais je reconnais l'odeur de la ville, c'est marrant, j'y suis retournée l'été dernier. Après, on est parti à Belfort, complètement de l'autre côté de la France, donc quand j'avais 2 ans. On y est resté 4 ans. Là-bas, j'ai fait donc toute ma maternelle à l'école Jacques Prévert. Un an avant qu'on parte, il y a mon petit frère qui est né. Il s'appelle Arthur. On vivait dans un immeuble avec ma meilleure copine qui était en face sur le palier, ma nounou qui était au 5e étage, et Fernanda et son fils Christopher avec qui je regardais les Tortues Ninja. C'était grave cool parce qu'à la maison, j'avais pas le droit de regarder le club Dorothée. Et puis en face de la rue, il y avait l'école pour mon CP. On est parti à Clermont-Ferrand. Et du coup, là, j'ai fait ma primaire. En 1998, quand j'avais 10 ans, j'ai un deuxième frère qui est né, qui s'appelle Arnaud. Et voilà. Et après, j'y suis restée jusqu'au lycée. J'ai fait ma première année de prépa à Clermont. Et puis après, je suis partie à Lyon. Si je devais résumer, mon enfance, c'est une enfance plutôt marrante, avec pas mal de déménagements quand je suis petite. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je pars d'Annonay. Et... C'est triste, mais en fait, c'est la vie aussi de déménager. Un jour, je m'en irai, pas savoir. J'ai reçu une éducation à laquelle j'ai bien adhéré. Mes parents sont devenus progressivement profs quand moi j'ai grandi, quoi, les premières années. Donc maman, elle enseigne en collège. Et mon papa, il enseigne à la fac. C'est des gens qui aiguisent la curiosité de leurs enfants, qui ont toujours eu confiance en moi aussi. J'ai toujours eu de la reconnaissance, de l'amour, des câlins, des choses assez essentielles pour se sentir bien dans sa peau quand on est grand, je pense, et qui sont malheureusement pas toujours bien partagées. Puis après, pour moi, l'enfance, c'était surtout d'être grande sœur. C'était vachement important, ça. Mes petits frères, j'ai beaucoup joué avec eux, je m'en suis occupée. Enfin, mes parents s'occupaient d'eux, mais j'ai beaucoup aimé m'en occuper. Et puis maintenant, ils s'occupent de tout seuls, on entend toujours très bien tous les trois. Je pense que la différence dans l'éducation que nous, on a reçue, hein, c'est surtout lié aux étapes de la vie de nos parents dans lesquelles on est né. C'est-à-dire que moi, je suis née, mes parents, ils finissaient leurs études. Mon premier frère aîné, il commençait à être titularisé quoi, dans leur vie professionnelle. Et puis mon deuxième frère aîné, quand mes parents étaient vraiment bien installés. Pour moi, ça a compté d'être la première. Parce que peut-être que les parents ils ont plus de principes au départ et que toi tu veux aussi bien les respecter, bien montrer que tu as bien compris, donc il y avait certaines choses qu'évidemment moi je pouvais pas faire et que 10 ans plus tard mon petit frère pouvait faire. Après je me suis jamais sentie bridée dans la mesure où j'ai toujours compris pourquoi mes parents voulaient pas que je regarde le club Dorothée, et puis de toute façon je pouvais regarder chez ma nounou, donc je m'en foutais, et j'ai jamais eu l'impression d'être élevée comme une fille. Quand j'étais petite, j'ai fait énormément de jeux de construction avec mon père. Mes parents m'ont fait faire du sport, des trucs d'extérieur. J'ai découvert plus tard qu'on élevait les filles et les garçons différemment, mais non, c'est plus à l'école en fait que ça venait. Les autres filles, elles jouaient au Barbie. Du coup, moi, je jouais au Barbie, mais ça venait plutôt de l'école. a occupé une très 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 grande place dans ma vie, du CE1 jusqu'à la terminale. Et ouais, c'est comme ça que je me définissais, je pense, le plus à l'adolescence, c'était que j'étais musicienne.
Et pourquoi tu t'es arrêtée alors en terminale ?
Je me suis pas vraiment arrêtée, mais quand en fait j'ai une formation de musique qui est très classique. J'étais dans un conservatoire municipal. On apprend avec des partitions, avec du solfège. Il y a de la musique d'ensemble, hein. Il y a des groupes, il y a des trucs sympas et tout, mais on n'est pas d'une très très grande autonomie. Et alors moi, comme j'étais très scolaire, j'adhérais très bien à ce modèle-là, donc je progressais très vite, et puis voilà, une bonne technicienne. Et puis après, t'arrives en terminale, puis t'as plus cours de musique, et puis t'es tout seul avec ton saxophone, et t'es là, je sais pas improviser, je sais pas jouer dans un groupe et tout. Donc d'un coup, t'as une petite frustration, quoi, tu sais pas trop quoi faire de ton instrument de musique. C'est un petit peu délicat. Et puis, c'est aussi un moment où, moi, en terminale, je me disais, bon, est-ce que je veux conservatoire pour devenir prof de musique ou est-ce que je fais des études ? La question s'est posée, mais je suis partie faire des études. Et à partir de ce moment-là, ça prenait aussi beaucoup de place, les études. Et puis, j'ai retrouvé un goût très fort pour ce que je faisais. Et donc, voilà, tout ça mélangé a fait que la musique a pris un peu moins de place. Mais je pense que c'est assez dommage qu'il y ait autant de gens, d'enfants, qui soient formés dans des conservatoires de musique avec un tel académisme. Quand je vois certains profs de musique autour de moi maintenant qui font des musiques actuelles et qui apprennent aux enfants différemment, en misant plus sur leur corps que sur leur cerveau, c'est peut-être pas mal, parce que je connais pas mal de gens, même dans mon milieu professionnel, hein, qui ont été des très très bons musiciens enfants jusqu'au lycée. Et puis après, le vrai regret, c'est l'impro. Et là, pour le coup, je pense qu'il y a un truc genré, parce que mon prof de musique, mon prof de saxophone, à qui je dois énormément de choses et que vraiment j'aime énormément, un jour, je lui avais demandé de m'apprendre à improviser. Et c'est pas venu. Alors, dans le groupe, il y avait des garçons qui improvisaient, hein, des garçons de mon âge et tout. Ceux qui improvisent, et c'est eux qui sont un peu moins techniciens, un peu moins soignés, mais quand même, on les rétribue autrement dans le groupe. Et ben, vas-y, ils vont faire leur petite impro. Et moi, j'avais bien envie de faire comme eux. Et bon, ben, ça s'est pas fait. Après, j'ai pas insisté non plus. Je dis, bon, ben, moi, je suis une bonne. Je suis bonne pour autre chose. Et je faisais d'autres choses qui étaient très satisfaisantes. Mais ouais, là-dessus, apprendre à improviser, savoir faire des trucs même moches. Ben nous, les filles, des fois, c'est peut-être qu'on nous laisse pas trop faire des trucs moches. On veut toujours que ce soit bien soigné. Je pense qu'en général, dans la société, c'est plutôt une chance d'être bon élève. C'est quand même ultra pratique. C'est ultra pratique pour être bien vu à l'école, pour être bien vu par ses parents, pour faire des études, pour être bien vu dans la société. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose, c'est des manières d'être éduqué et des manières de se comporter qui sont ultra valorisées. Donc, évidemment, ça n'est pas un frein. Et évidemment que c'est aussi pas mon caractère à moi, Julie, qui suis née en 1988. C'est un ensemble de choses, de gens que j'ai rencontrés, de manières de faire qu'on m'a transmises, qu'on m'a apprises, parce que mes parents sont enseignants, parce que plein de choses, hein, c'est pas un don, quoi. C'est, voilà. Donc je suis devenue, on ne naît pas bonne élève, on devient une bonne élève. Ouais, j'étais pas une ado rebelle, je suis pas une trentenaire rebelle, mais je pense que j'arrive à trouver des instants, des espaces de liberté, et que c'est grâce à des rencontres, des amitiés, des occasions. Et puis l'important, c'est d'être curieux. Je voulais être journaliste depuis que j'étais plus, je sais pas, CM1, CM2. J'ai toujours voulu être journaliste. J'ai eu mon premier dictaphone en CM2. J'étais allée faire un micro-trottoir au feu d'artifice des Sables d'Olonne le 14 juillet. Je demandais aux gens si ce que ça leur inspirait, le feu d'artifice. C'était du grand n'importe quoi, avec les gens qui disaient « Ah, oh, je vois mes impôts partir en fumée » et tout. Enfin, c'était d'un... Oh, je déteste les micro-trottoirs, les gens disent que des trucs ultra bateaux. Donc, pour être journaliste, j'avais vu que c'était pas mal de faire une école de journalisme, et que pour entrer en école de journalisme, c'était pas mal d'avoir fait un institut d'études politiques. Mon objectif, c'était ça, c'était d'entrer à Sciences Po. Du coup, après le bac, ben, j'ai passé le concours, que j'ai pas eu, et je suis allée en prépa, ce qu'on appelle les classes préparatoires aux grandes écoles, et la mienne était littéraire. Et puis, à l'issue de ma première année de prépa, que j'ai adorée, parce que j'étais une bonne élève bien disposée pour ça, évidemment.
Ah bon, c'est étonnant.
Tout le monde n'aime pas ça. Et là, j'ai eu un concours, donc je suis rentrée à Sciences Po à Lyon en 2007. Et voilà, et puis après, je ne suis pas devenue journaliste, mais enfin, c'est ça qui avait orienté mes choix, quoi.
Mais c'est resté quand même... Enfin, c'est un métier à part entière, mais... C'est aussi, je pense, une manière d'être, tu vois, dans ce que tu fais. Donc,
C'est l'idée d'aller chercher des infos et de les transmettre, créer du savoir. Bon, mais ça, il n'y a pas que les journalistes qui le font, il y a plein de manières de le faire. Faire de la radio, c'en est. Faire de la recherche, c'en est une autre manière. Ce qui est super attrayant quand tu fais ces études-là, c'est qu'il y a une année obligatoire à l'étranger. Du coup, moi, j'ai fait la deuxième année à Lyon. Et puis, de suite après, je suis partie un an en Erasmus. Et là, je suis partie à Berlin. Cette année Erasmus, elle a été assez marquante sur plein d'aspects. J'ai eu des cours de philosophie du langage, des cours de littérature, des trucs qui m'ont ouvert l'esprit, des cours d'intersectionnalité à une époque où le mot n'existait pas encore en France. Puis il y avait la fête, évidemment, Erasmus, on fait beaucoup, beaucoup la fête. Et puis la ville de Berlin qui s'est fait détruire plein de fois. Donc tout son patrimoine, il est enfoui, il faut tout s'imaginer. Par contre, tout est sans cesse en train de se recréer, en train de se réinventer. Tout est dans des espaces à découvrir, avec plein de cachettes et plein de trésors dans ces cachettes.
T'as un rapport à la ville aussi qui est assez important, aux espaces, et que ce soit des petites, en fait, comme celle que tu vas quitter et une autre que tu vas retrouver. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui a marqué. Est-ce que c'est né à ce moment-là,
oui,
à Berlin?
Ouais. En tout cas, j'en suis devenue consciente à ce moment-là. C'est-à-dire que j'ai toujours aimé regarder dehors, être plutôt du côté fenêtre que du côté couloir, dans le train, dans le bus et tout ça. Mais à Berlin, ouais, j'ai pris conscience du truc. Parce qu'il y avait des espaces qui étaient clairement pas finis, il y avait des espaces qui étaient cassés, il y avait des espaces qui étaient très beaux. Et donc le rapport à la ville, à ce qui est beau dans la ville, était complètement chamboulé, puisque c'est une ville qui n'est pas du tout patrimoniale, au sens de... Voilà, nous, on a une vision de la ville en France très associée à la capitale, Paris, très belle, très intangible, ça bouge pas. Toutes les époques sont représentées dans les monuments, dans les rues. Il n'y a pas une dent creuse. Et puis s'il y a un trou, oulala, il faut vite le cacher. Alors qu'à Berlin, il n'y a que des trous. Là où c'est beau et monumental, ça ne vit pas forcément bien. Il y a quelque chose qui travaille. Et puis à ce moment-là, un truc fondateur, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de dessins sur les murs. Et j'ai des potes qui prennent ça en photo tout le temps. Donc moi, je me balade avec eux, on prend les photos, on commence à repérer les artistes. Ça nous fait regarder la ville autrement. Et j'apprends vraiment à poser mon regard différemment. Je suis pas architecte, je suis pas urbaniste, mais voilà. Ça me donne le goût un peu pour ces choses-là. Et puis, ça me pose la question de voilà, qu'est-ce que c'est qui doit rester, qu'est-ce que c'est qui doit pas rester dans une ville.
Donc tu poses ton regard sur la ville. Et à Berlin, il y a énormément de graphes. Mmh. Qu'est-ce que ça te fait? Pourquoi ça t'intéresse autant?
Moi déjà, il y a deux trucs. Ça donne l'impression que les gens s'autorisent à faire des trucs. À aller écrire, à aller coller, à faire des trucs un peu absurdes. Tu vois qu'ils y ont pris du temps et qu'en fait ça sert à rien. Mais juste toi, ça te fait plaisir de le voir. Alors tout le monde ne dira pas ça, hein, mais moi c'est ça qui se passe. Et il se trouve que parallèlement, je suis dans le quartier de Friedrichshain à cette époque-là. Et que c'est la préparation des 20 ans de la chute du mur de Berlin. Et il y a une grande partie du mur qui a été peinte par des artistes spontanément. Dans les années 90, l'ouverture du mur. Et ça s'appelle l'East Side Gallery. Ça a été peint spontanément. Et là, 20 ans après, la mairie de Berlin retape le mur, rebouche les trous, repeint tout ça en blanc et demande aux artistes de revenir pour refaire les mêmes dessins et met par-dessus les peintures des artistes du vernis anti-graffiti. Et du coup, ce que je vois, c'est juste à côté de chez moi, un immense mur qui est en train de devenir un espèce de musée un peu kitsch où on fait revenir les artistes pour refaire des trucs à neuf avec des petits cartels où on marque le nom de l'artiste, on le paye pour venir refaire un truc 20 ans plus tard. Et on met de l'anti-graffiti pour éviter tous les « je suis là, je suis venu machin plus machine, machine plus machine ». Effacer tout ça, alors que le reste du quartier pullule d'une créativité monstre, de plein d'œuvres magnifiques. Et finalement, c'est ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est les trucs déviants. C'est pas cette espèce de mur musée qui est en train de se faire refaire. Et donc, le contraste, si tu veux, dans le même quartier, entre ces deux types de créativité, là, ça fait clairement naître un questionnement en moi. Et à un moment où t'es dans tes études, tu dois commencer à réfléchir à un sujet de mémoire, à faire tes premiers exercices par toi-même, en fait. T'es plus juste dans la dissertation ou le commentaire ou la réponse à des questions. On te demande de faire des exercices où c'est toi qui poses la question et qui mène la réponse. Donc moi, évidemment, mes premiers mini-mémoires, mes premiers mémoires, je les oriente vers ces sujets-là avec des auteurs que j'ai glanés comme ça, par-ci, par-là. Je rencontre Michel Foucault, Jacques Rancière... Voilà. Et donc ça, c'est des choses qui se mettent en place à la fin de mon année Erasmus. Parce que dans le graffiti, ce qu'il y avait, en fait, c'était l'improvisation. Et en fait, ça représente un peu, moi, le truc que je savais pas faire. Questionnement essentiel qui venait de la musique et qui était assez douloureux à cette époque-là. Cette chanson, si c'est une chanson. Je finis mes études à Lyon. Donc là, pareil, je goûte à plusieurs types de cours. Et puis, je me rends compte qu'en faisant des mémoires, ça me plaît bien d'écrire 100 pages toute seule. Et puis, c'est là qu'on me propose de candidater pour avoir une bourse doctorale, une allocation. Donc, je passe le petit concours qui permet d'avoir ça. Et puis, je l'ai. Donc, je ne me suis pas vraiment posé la question à la fin de mes études de ce que j'allais faire. Même si, à la fin du M2, avant d'avoir la réponse pour ce petit concours de thèse, là, j'avais fait un stage à Radio Aligre, une radio associative parisienne qui existe toujours, mais qui est très ancienne. En fait, j'étais devenue très amie avec une de mes amies qui s'appelle Fanny. Elle avait une coloc avec une autre amie qui s'appelle Charlotte, qui est toujours ma super copine aussi. Et Fanny et Charlotte, elles étaient avec Antoine, qui était un autre copain, mais je le connaissais un peu d'avant. Et ensemble, ils faisaient une émission de radio. Et elles avaient Fanny et Charlotte avaient un autre coloc qui s'appelait Sébastien.
Ah oui, voilà. D'accord.
Et en fait, ces gens-là sont devenus mes potes et ils faisaient de la radio. Et ils avaient une émission qui s'appelait Y a baleine sous gravillon à Radio Brume. C'est une radio associative lyonnaise. Et dans Y a baleine sous gravillon, ils faisaient des émissions culturelles. Enfin, ils parlaient d'un peu tout. J'ai commencé à aller les écouter. Puis un jour, Fanny m'a dit « Ah, tu veux pas faire un reportage avec moi ?» Donc on est allé faire un reportage sur un cirque. C'était trop bien. Et donc là, je me suis mise à faire de la radio avec eux en quatrième année. Et je faisais des petits montages. J'aimais bien ce que faisait à l'époque Caroline Cartier sur France Inter. Elle faisait un truc qui s'appelait Quartier Libre. J'étais dingue de ce truc. Ça me faisait des frissons. C'était mieux que de la musique.
Je sais pas lire, en fait. Parce qu'il faut être en CP1 ou en CP2 pour apprendre à lire, pour apprendre... Mais j'aimerais bien, mais je peux pas. Mais tu sais, dans ma tête, je me raconte plein d'histoires.
Et donc j'ai voulu faire un peu pareil, donc je faisais des petits montages sonores, un peu comme Caroline Cartier, pour leur émission, qui entre-temps était devenue Radio de la Méduse. Mm-hmm. Donc on faisait Radio de la Méduse, et après c'est devenu Indigné presque parfait. Vous avez le sens du titre.
Et ouais, donc là ça te fait vraiment émerger la passion de la radio, quoi.
Super passion. Moment-là, super passion pour la radio et super passion pour le gars qui fait la technique dans l'équipe de radio.
Oui, oui, oui. Et donc, ce garçon, justement...
Qui est le père de ma fille.
Qui est le père de ta fille. La situation dans laquelle vous êtes au moment où vous vous rencontrez, c'est que vous êtes tous les deux étudiants. Mm. Et toi, donc, pour le moment, t'es à Lyon, mais après, je crois que tu repars.
Quand t'es à Sciences Po, souvent la cinquième année, les gens partent un peu se spécialiser ici et là, au gré des partenariats, de leurs envies. Et donc, lui, il part faire un master à Toulouse. Moi, je reste faire mon master à Lyon. À l'issue du master, il a un premier emploi à Annonay. Et là, moi, c'est le moment où je pars à Paris pour faire mes recherches. Donc voilà, on s'est un peu couru après pendant 2-3 ans.
Qu'est-ce qui fait, tu penses, que vous êtes accroché à cette histoire-là ?
Bah, parce que c'est l'homme idéal.
Ah d'accord. Et en quoi il est idéal alors ?
Non, je ne vais pas dire que c'était pour rire, mais sérieusement quand même. Non, mais c'est pas mal d'être un peu à distance. Ça permet de garder déjà une chambre à soi, son autonomie, de continuer à grandir toute seule, enfin, et de se voir quand on choisit de le faire. Après, c'était quand même assez chiant de devoir prendre des trains et tout ça. Mais voilà, ça s'est fait comme ça. De toute façon, ça s'est fait comme ça. On m'aurait dit, tu vas passer 3 ans à distance. J'aurais dit, ah ben non, jamais de la vie. Puis en fait, après, tu choisis pas. Enfin, voilà, là, je sais pas trop analyser ça. Évidemment, tu ressens le manque. C'est quelque chose qui est là dans la journée. C'est parfois désagréable. Mais c'est parfois aussi un peu sympa de ressentir le manque, une petite mélancolie, tout ça. Et par contre, j'adorais ce que je faisais quand j'étais sans lui, donc j'avais aucun problème à voir mes potes, à faire mes trucs. D'autant que les choses que j'aime faire moi et les choses que lui, il aime faire lui, sont pas forcément compatibles. Donc j'avais pas de problème à me dire « Oh là là, s'il était là, ce serait tellement mieux ». En fait, non, c'était très bien comme ça. Et quand on était ensemble, on faisait autre chose. En revanche, quand on était ensemble, j'avais plus de mal à faire mes trucs à moi. C'est plus ça, c'est quand on est ensemble, quelle place je donne à mes activités à moi et comment je fais pour exister en tant que Julie autonome dans ce couple si merveilleux que j'ai envie de m'y noyer et de m'y fondre et d'oublier qui je suis. Et ça, c'est plutôt ça la difficulté pour moi.
Mais alors justement, comment tu fais ?
Parce que... Il faut avoir une chambre à soi.
Oui, mais...
Ah, mais sérieusement ?
Techniquement, du coup, t'es à Paris, il arrive à Annonay. Donc ça dure combien de
temps ? Paris-Annonay, ça dure une année, ouais. Mais moi, je vais faire mes étés à Berlin, donc il me rejoint à Berlin. Parce qu'il travaille d'abord quelques mois à Annonay. Et ensuite, il remplace un congé maternité. Et donc la personne revient, et là, il est donc au chômage. et il trouve du travail à Valence après. Et donc là, il s'installe à Valence. Et moi, je lui avais dit, bah, écoute, au bout d'un certain moment, pour mes recherches, j'aurais juste besoin d'écrire. J'aurais amassé assez de matériaux. Donc voilà, je l'ai rejoint à ce moment-là. Et là, on a pris un appart où j'avais un bureau à moi.
OK.
Voilà. Donc j'ai vécu un an à Valence. Et là, j'enseignais à Lyon. C'était pas très loin de Lyon. Puis il y avait un train direct qui partait d'en bas de chez moi et qui arrivait à côté de mon boulot. Donc c'était cool.
Malgré tout, cette histoire, elle dessine un petit peu aussi ta trajectoire parce que tu vas le rejoindre.
Oui.
Enfin, c'est toi qui vas faire le pas vers lui.
Justement, j'avais cette autonomie et que j'avais un travail qui me permettait de travailler de manière autonome. Même si j'ai un laboratoire avec des réunions, avec des séminaires, avec des collègues à Lyon, que j'ai mes cours à Lyon et j'y vais toutes les semaines. J'y suis toujours allée toutes les semaines depuis 2011, donc ça fait maintenant 8 ans. J'ai toujours été toutes les semaines à Lyon, mais j'ai une certaine souplesse dans mon emploi du temps. Donc à partir du moment où j'avais un bureau à moi pour faire mes trucs de boulot ou autre et qu'on habitait ensemble, c'était pas un problème. Donc je lui avais dit ça et lui, il voulait pas habiter dans une grande ville. C'était pas son choix, c'est pas là qu'il a trouvé du boulot. Donc on commence à vivre ensemble à Valence. La première année, c'était super dur. J'étais super heureuse de vivre avec lui. Mais la mise en ménage, c'est des ajustements super difficiles à trouver. Parce qu'il y a tout un tas de choses de l'ordre de la féminité et de la bonne tenue, de la maison et de ce que ça doit être de vivre en couple qui te rattrape. C'est effrayant. Mmh. Donc ouais, j'étais un peu envahie par ça. La première année, vraiment, je voulais faire les courses, je voulais faire ci, faire des siècles, des siècles d'histoire de la femme qui d'un coup se mettent dans ton corps et font que tu préfères aller faire une lessive plutôt que de finir ton bouquin, quoi. Et ouais, ça j'ai un peu combattu ça. Et en fait, au bout d'un an, il a trouvé un autre boulot, cette fois-ci à Annonay. Et donc là, on arrive en 2014. Et le fait de déménager, de changer d'endroit, on a remis un peu les choses à plat. On a dit, OK, on va faire autrement. On a beaucoup discuté. Comment on construit ensemble la vie quotidienne et sans faire un tableau où on se répartit les tâches une par une, quand même essayer d'avoir une certaine attention. Tous les deux, on grandit ensemble. Et qu'on se façonne l'un l'autre. Bah, je pense quand on sera vieux, on sera comme ces vieux couples qui se ressemblent même physiquement, tellement ils ont vécu ensemble. Mais après, je dis pas, il y a plein de trucs où on n'est pas d'accord, on s'entend pas, on n'a pas les mêmes goûts. Mais c'est pas grave, on se laisse vivre.
C'est peut-être aussi bien.
Mais après, voilà, on n'est pas non plus des alter ego. Enfin, d'ailleurs, c'est pas le but, c'est pas intéressant. À respirer la rose des
Toi qui as vécu plutôt dans des grandes villes, là tu arrives dans une ville de 16-17 000 habitants, peut-être à l'époque tu es un peu moins de 16 même. Voilà, comment ça se passe pour toi ?
Bah moi je viens parce qu'on me dit que c'est pour un an. Il fallait que je finisse ma thèse. Bon, j'avais bien vu qu'on pouvait avoir un grand appart avec un grand bureau. Ça serait un peu plus compliqué d'aller à Lyon, mais ça se faisait quand même. Sauf que cette année-là, donc mon contrat se termine et du coup moi, j'ai un autre contrat de travail, mais cette fois-ci à Aix-en-Provence. Donc la première année à Annonay, je vois pas le jour quoi. Clairement, je prépare mes cours 3 jours par semaine. 2 jours par semaine, je vais à Aix-en-Provence avec une multimodalité de ouf à base de covoiturage, de train, de car, de pied, de marché à pied, de tout ce que tu veux. Les cours que j'ai sont super durs. Vraiment, là, je suis sous l'eau. Et je continue à aller une fois par semaine à Lyon. Donc, je rencontre personne la première année. Mais voilà, c'est une année ultra formatrice. Et en fait, l'année d'après, du coup, lui, on lui propose de rester 3 ans. Et moi, on me dit, bon, bah maintenant, tu vas aller à Lyon. Donc, je me dis, bon, ça ne sera jamais aussi compliqué que la première année. Donc, OK, on reste encore. Et là, à partir de 2015, je commence à pouvoir faire autre chose. Et il se trouve qu'il y a un studio de radio qui ouvre à ce moment-là à 10 mètres de chez moi. J'y vais, je leur dis que je veux faire un magazine, en reprenant un peu l'idée de ce qu'on faisait avec les copains à Lyon. Un magazine qui parle de la vie urbaine, qui parle de culture, qui parle des gens, avec des reportages. Entre-temps, j'avais découvert Les Pieds sur Terre sur France Culture. Sonia Kronlund est mon idole. Je veux faire pareil, mais avec des gens d'Annonay. Puis je voulais toujours faire venir un chercheur au départ. Avoir toujours le regard des sciences sociales, parce que je trouve que c'est un regard qui est tellement utile dans la vie, que c'était une manière de le transmettre différemment.
Je sais pas, il n'y a pas besoin d'être maître du monde pour faire Annonay. Hein. C'est une petite ville.
Il n'y a pas besoin d'être les maîtres du monde pour faire des trucs à Annonay et Yes We Can. Yes Weekend réinventait cette petite ville pourrite. Une petite ville pourrite où le printemps peine à jouir et où l'été peine à éclore.
J'ai terminé ma thèse en 2017. Jusque-là, je me consacrais pleinement à ça. Et à Nonnet, j'avais des hobbies, quoi, donc de la radio et du sport, et des copains, des copines. Et puis quand la thèse a été terminée, soutenue, c'est comme une grosse gestation qui se termine. Et là, t'es un peu épuisée, puis il n'y a plus d'école après. Donc moi, j'étais un peu désemparée. Je ne pouvais plus être bonne élève, quoi. Il fallait que j'aie autre chose. Et donc, j'avais besoin de voir si mes compétences, elles valaient quelque chose en dehors du monde scolaire. Et là, à Radio DC, ils cherchaient quelqu'un pour mener à bien un projet où il fallait un peu savoir écrire, un peu savoir enseigner et un peu savoir parler dans un micro. Donc, c'était trois trucs que je savais faire. Je me suis dit, super, je vais faire ça à temps partiel. Ça va me permettre de voir... si mes compétences elles ont de la valeur ailleurs quoi. Et puis par ailleurs la radio c'était ma passion donc je me suis toujours dit qu'il fallait mieux avoir un métier passionnant que de faire sa passion son métier, mais là j'avais l'occasion de faire de ma passion un petit métier pendant quelques temps et pourquoi pas de déroger à la règle, voilà, donc je l'ai fait et puis ça m'a vachement plu. Alors je faisais toujours des cours à côté, hein, c'est-à-dire que j'ai jamais quitté la fac. C'est comme ça que j'ai rencontré plein de gens à Nonnet. Puis par ailleurs, je faisais des petits sons pour RCF aussi depuis 2016, je crois. Donc voilà, avoir un micro dans la main, c'est un super moyen pour aller rencontrer les gens. Donc quand t'es curieux, tu mets un casque sur tes oreilles, un micro dans ta main et tu peux aller à la rencontre de tout le monde. Donc c'est ça qui me plaisait, c'est ça qui me plaît toujours. Après que ce soit pour poser des questions pour la radio ou pour un entretien de socio, c'est un peu pareil. Je toujours dit à Nonnet, elle est cabossée. J'aime bien parce qu'elle est marquée par son histoire populaire, parce que c'est une ville qui n'est pas figée, qui n'est pas léchée. Je trouve qu'il y a un truc ultra étouffant quand tu vis dans une grande ville, à Lyon en particulier, à Paris encore pire. C'est l'injonction à être beau. Tout est tellement beau, tout est tellement riche, que toi, si t'es pas si beau ou si belle et si t'es pas si riche, eh ben, tu te sens un peu mal. Dans les grandes villes, il y a des gens très différents, il y a des endroits interlopes, il y a des endroits... underground, il y a des trucs comme ça dans lesquels on peut trouver à révéler sa propre identité. Mais dans l'espace public, souvent, ce n'est pas le cas. Tout est très léché, tout est très nickel. Et ce que j'aime bien à Nonnet, c'est ça, c'est que l'espace public, il est un peu cabossé. Alors, quand on ne peut pas passer sur un trottoir avec une poussette, ça me saoule. Mais quand c'est juste des questions de voir le passé industriel, voir le présent, voir le futur. Et en fait, quand c'est un peu cassé, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on voit le futur. On se dit, tiens, et comment ça pourrait être si on le refaisait et si on l'améliorait? Et c'est ça, et ça a toujours marqué tous nos potes qui sont venus nous voir à Nonnet depuis 5 ans qu'on est là. Ils disent, ouais, mais génial ce qu'on pourrait faire ici. Voilà. Et ça, tu ne te le dis pas à Paris. Ça, tu ne le dis pas à Lyon. Quand tu es dans un centre-ville ultra patrimonial, ultra rénové, parfait, ton imagination, elle est complètement bloquée. Ici, tout est possible. C'est pour ça que mon émission s'appelle Les Réinventeurs. C'est que je vais aller voir les gens qui avaient envie de réinventer, de faire autrement. Alors bien sûr, cette ville, les gens qui ont vécu ici depuis longtemps et qui ont vécu la désindustrialisation, le déclin, la pauvreté, souffrent. Et cette souffrance, elle est vraie. Mais aussi, elle amène des actions. Elle amène de la solidarité, elle amène des actions sociales, elle amène plein de choses qui sont super intéressantes à observer. Et donc, il y a des forces vives inestimables dans cette ville. Quand tu pars à la rencontre de ça, du monde associatif, du monde culturel, c'est super intéressant. Si toi, ça va. Hein, quand on a des soucis, c'est plus difficile de voir le bon côté des choses. Je pense qu'il faut toujours le rappeler. À Nonnet, c'est un peu la ville où je me suis installée dans une forme de précarité, mais contre mon gré. Mon conjoint, lui, il a eu du travail pendant ces 5 années, un travail qui lui plaît, qui est intéressant, qui est plein de reconnaissance pour lui. On a un appart qui est très bien, une qualité de vie très bien, à moindre frais. C'est-à-dire qu'on peut vivre avoir une vie de qualité qui ne coûte pas très cher. On vit en hypercentre, on fait tout à pied... On peut acheter des produits frais, on peut aller se promener à la campagne, on peut avoir vraiment une vie culturelle qui nous convient, avec une offre largement supérieure à nos besoins, quoi. Donc, cette qualité de vie, pour la situation dans laquelle j'étais, je ne pouvais pas la trouver ailleurs. Une fois que j'ai eu terminé ma thèse, j'étais au chômage. J'ai enchaîné donc, des emplois à temps partiel, que ce soit à l'université ou à la radio. Et ça fait 3 ans que je vis comme ça. Je mets des petits bouts de ficelle les uns à la suite des autres. Et moi, ce que je veux, c'est travailler à l'université. Or, la précarité dans le monde enseignant, dans le monde de la recherche, et la précarité universitaire, c'est un fléau. C'est-à-dire qu'on est très nombreux à être formés, très bien formés, à être prêts à enseigner à la fac, à mener des recherches intéressantes. À la fac, il y a besoin de profs, parce que le nombre d'étudiants augmente sans cesse, mais on n'augmente pas le nombre de profs. Et du coup, par contre, les besoins sont là. Donc, on nous fait faire des petits cours par-ci, des petits cours par-là, on est payé 2 mois après, on a la feuille de paye 2 ou 3 mois après. Donc, pour Pôle emploi, c'est toujours compliqué, il faut aller la ramener. Enfin bon, bref. Donc, on est dans une espèce de galère comme ça, sans cesse, à jongler entre plein de trucs à faire qu'on nous donne à faire, mais pas vraiment de contrat. Voilà. Et donc, dans ce contexte-là, vivre à Annonay, pour moi, c'était un confort de vie, en fait. C'est-à-dire que je fais partie de ces gens qui, et ils sont nombreux et ils ont raison, qui vivent à Annonay parce qu'on peut vivre bien pour pas trop cher. Mmh. Et ça, c'est très important. On ne peut plus faire ça dans les villes. C'est impossible de vivre bien pour pas trop cher dans une grande ville, dans une ville moyenne encore moins, et dans une petite ville, c'est à peu près possible. Donc, c'est pour ça qu'Annonay, c'est super. Parce que tu peux... Enfin, c'est super. C'est pas super d'être dans la précarité. Ouais. En revanche...
Tu peux t'en sortir. Tu peux trouver un endroit où t'en sortir.
Et si t'es dans la précarité, t'es pas exclu, quoi. T'es pas... Alors moi, il se trouve que j'ai des activités qui correspondent à ce qu'on me propose aussi. Hein. Mais voilà. Et si je pars aujourd'hui, c'est aussi parce que finalement, le métier que je veux faire, je peux pas le faire ici. Donc je pars le cœur gros de quitter cette ville à qui je dois beaucoup, à qui grâce à qui j'ai pu faire mon métier avec des briques et des brocs, faire plein d'activités non rémunérées mais très importantes pour être un jour peut-être recrutée. Ça, j'ai pu le faire en étant à Annonay. Et maintenant, maintenant, on me propose un travail pas ici et du coup, tu comprends bien que...
T'as oublié de partir.
C'est pas que je suis obligée, c'est que moi j'ai besoin d'avoir un travail qui me reconnaît. Sur mon bateau, mais j'ai pas de bateau. Là, je vais être post-doctorante, c'est-à-dire que je vais faire un nouveau sujet de recherche pour lequel on me paye. Les chercheurs en sciences sociales, c'est des gens qui, que ce soit en histoire, en géographie, en sciences politiques, en sociologie, en anthropologie, j'oublie des disciplines, sont des gens qui... produisent des connaissances sur la société. C'est-à-dire que contrairement aux gens qui font des sciences dures, les gens qui font des sciences dures, ils mettent la réalité dans un bécher, ils observent le bécher, et après ils posent des conclusions. Souvent, ils utilisent les mathématiques pour faire la démonstration, et ils arrivent à isoler une partie du monde. Ils mettent une feuille sous un microscope, voilà, voilà. Bon, nous, en sciences sociales, on est dans le bécher. Nous, on est dans la société qu'on observe, et donc on fait ça de l'intérieur avec nos outils qui ne sont pas des microscopes. C'est des dictaphones, c'est des archives, c'est des appareils photos de temps en temps, des observations, on prend des notes, on travaille avec des cahiers. Ça coûte pas cher, mais je sais pas, on veut quand même pas nous donner de l'argent, bref. et on écrit des choses sur le fonctionnement de la société qui servent à plus ou moins long terme, en fait. C'est le principe de la recherche. C'est-à-dire que tu as de la recherche très opérationnelle, où parfois on va te commander un rapport sur un truc particulier. On est là pour montrer comment fonctionnent les choses, pour dire voilà la réalité sociale, ce qu'elle est, comment on peut l'analyser, comment on peut essayer de comprendre des processus. Après, à vous qui agissez de manière opérationnelle dans le monde contemporain, de vous en emparer. Mais peut-être que c'est à vous dans 10 ans ou à vous dans 20 ans. En fait, ça... Nous, on n'est pas là pour ça. On est là pour produire du savoir et le rendre disponible. Et c'est important. En fait, c'est essentiel, même. Cette chanson, si c'est une chanson. En fait, le choix de devenir mère, il se fait après ma thèse, une fois que j'ai fini ma thèse. Déjà, c'est pas le choix de devenir mère, c'est le choix de devenir parent. Parce que y a plusieurs trucs. Alors on se dit souvent, les femmes, si elles font un enfant, après ça a un impact sur leur carrière. Oui, mais si j'attendais d'avoir fait carrière pour avoir un enfant dans le monde professionnel que j'ai choisi, je pense que je suis ménopausée, quoi. Le parcours pour être titularisée dans le monde de l'enseignement supérieur et la recherche, si jamais un jour je le suis, il est tellement long que si j'avais dû attendre, je pense que j'aurais pas. Bon bref, ça m'allait pas, quoi. Donc là, justement, on était dans cette situation. C'est la belle vie à Annonay avec des ressources financières assez, assez faibles. Mais mon conjoint a une situation correcte. Et en fait, à ce moment-là, je peux prendre un an. Je peux prendre un an, ça ne se verra pas trop sur mon CV. Et en même temps, je suis dans une petite ville où j'ai des amis. Moi, ma grande inquiétude, c'était de me dire, si je cherche un boulot, qu'on doit déménager et que je fais un bébé là-bas où je ne connais personne, ça va être l'angoisse. Mmh. Donc je voulais faire un bébé... alors que je connaissais du monde, que j'avais des copines avec qui je pourrais boire des rooibos et tout un tas de trucs sans théine ni alcool pendant un an. Et puis, il y avait un hôpital juste à 500 mètres de chez moi. Et voilà, toutes les conditions étaient là pour que prendre une année pour faire un bébé, c'était possible. Mmh. Et donc, c'est ce que j'ai fait. C'est ce qu'on a fait.
ça marchait. Ma grossesse pas trop médicalisée, mais en même temps où je suis en confiance, des accompagnements autour, super. Je me suis clairement posé la question de savoir si je voulais pas d'enfant ou si j'en voulais. Voilà, je pense que c'était un sujet de discussion et d'intérêt commun avec, avec son père. Et voilà, c'était assez facile de devenir parent pour nous. On a des vies assez autonomes l'un de l'autre. Donc là, quand t'es un enfant, ben, il faut bien s'articuler, quoi. Il faut bien être au courant de ce que tu fais. Tu peux pas oublier, dire « Ah, je t'avais pas dit au fait ce soir, je... Ah, non, par contre, tu m'avais pas dit, là, ça le fait pas. » Donc on apprend à partager très très bien l'information, à bien anticiper les choses, et je crois qu'on s'en sort là-dessus. Et puis après, ben oui, de toute façon, tant qu'elle est petite, on organise le temps un peu différemment. Le fait d'être mère m'a redonné beaucoup d'envie. Quelque part, ça y est, je suis mère. Maintenant, je peux me consacrer à plein de trucs. Ça redonne de l'élan, vraiment. On est une équipe. On n'est plus deux, on est trois. Et ça, c'est aussi... voilà. Après, concrètement, au quotidien, quand tu bosses beaucoup chez toi, que ton bureau, ça devient la chambre de l'enfant, du coup, il faut mettre le bureau dans un coin de ta chambre, etc. Là, il y a des ajustements qui sont compliqués à faire, mais qui ne sont pas dus à la maternité, encore une fois, qui sont dus à la précarité. C'est-à-dire que dans la mesure où je suis dans un milieu professionnel où il est difficile de trouver un cadre de travail respectable, avec un salaire, avec des murs, avec des collègues, etc. Et là, on va voir, je vais avoir un vrai travail avec un vrai salaire, des vrais collègues, et on va voir si j'arrive à mieux bosser. Un jour, je m'en irai, pas savoir où j'irai. Être féministe, je pense que c'est une question de regard. C'est des lunettes que tu mets. Je suis constructiviste. C'est-à-dire que je pense que les choses, les comportements des gens sont façonnés par la vie en société et par l'histoire de la société. C'est mon truc de sociologue, ça. Mais on est façonné par nos habitudes, nos manières d'être, nos manières de penser sont façonnées par des siècles et des siècles de comportements, mais même sans un siècle, hein, juste deux, trois générations, déjà, ça suffit à faire des habitudes. La manière dont le droit façonne la société, est-ce que tu peux voter ou pas, est-ce que tu peux ouvrir un compte en banque toute seule ou pas, voilà. Quand tu peux faire ça juridiquement que depuis quelques dizaines d'années, ça dit beaucoup de choses sur ce que c'était le comportement possible des femmes il y a 50 ans. On est vraiment façonné par le monde social, et tout est façonné par le monde social. Et il y a des choses... des éléments qui sont plus ou moins déterminants dans la manière dont fonctionne la société. Et les relations féminin-masculin structurent plein de choses dans la société. Mais comme les relations entre ceux qui détiennent le capital et ceux qui ne le détiennent pas. Comme les relations entre les gens de couleur et les gens blancs. Il y a plein de différences dans la société, mais il y a certaines différences qui structurent davantage les relations sociales que les autres. Et ben, le fait d'être une femme ou un homme, ça c'est un truc ultra structurant. Donc être féministe, c'est adhérer à cette idée-là. C'est qu'il n'y a pas une idée en fait, qui s'explique, qui se prouve historiquement, empiriquement, socialement. Il y a des indices. L'écart entre les salaires, le niveau de vie, le rapport à la carrière, le temps partiel, qui s'occupe des enfants, la charge mentale, enfin tout un tas de choses qui font qu'on peut prouver que le fait d'être un homme ou une femme structure différemment ta vie aux dépens des femmes. Je suis féministe parce que je pense que cette inégalité-là...
Tu crois ça, ouais.
Parce que déjà, je la constate, je fais l'effort de la constater, et c'est un effort, parce que quand tu n'en souffres pas beaucoup... de cette inégalité, il faut quand même essayer de la voir, hein, parce que c'est pas parce que t'es blanche et que t'es bien éduquée et que ça va bien que c'est pareil pour toutes les femmes. Et de pas se dire, oh mais moi mes copines ça va, on n'a pas de problème. Non. En fait, c'est de voir aussi toutes les femmes dans leur ensemble à l'échelle de toute la société et de se dire, ok, il y a des choses qui structurellement déconnent clairement dans la société. Et donc, je suis féministe parce que je veux que là-dessus, on résolve les choses.
Est-ce que tu as toujours été féministe ou est-ce que tu l'es devenue? Est-ce que voilà.
Ça, je pense que non, je l'ai pas du tout toujours été parce que j'ai pris des qualités qu'on appelle souvent masculines. Je suis un peu grande, je parle un peu fort, je parle bien en public. J'ai pas de problème avec le fait d'être rouge quand je suis essoufflée. Tu vois, des trucs comme ça où je me maquille pas beaucoup. Il y a des trucs où je me sentais à l'aise dans la société en tant que fille, mais parce que j'avais quelques qualités, on va dire, masculines qui me permettaient d'être à l'aise. Et du coup, je ressentais pas... On m'a jamais vraiment emmerdée dans la rue. Ou alors, je le voyais pas, quoi. Et c'est plus en devenant jeune femme que j'ai commencé à comprendre quand même dans la rue, on te faisait un peu chier. Et je me disais, bon, ça va, ça me faisait pas trop, trop rire, perso. J'ai fait un stage d'autodéfense féministe il y a 3 ans. Ça m'a pas mal bousculée. J'ai voulu le faire parce que c'est une copine qui l'organisait, puis j'étais curieuse, elle m'en avait parlé. Mais moi, j'ai grandi avec une maman qui m'a raconté que quand elle a été ado, elle s'était fait agresser, et elle m'a toujours raconté comment elle s'en est sortie. Comment, avec sa pochette, avec un 33 tours dedans, elle avait foutu un grand coup dans la gueule du mec, elle est partie en courant et en hurlant, et qu'il l'a pas rattrapée. Et voilà, et cette histoire-là, de ma mère qui se défend et qui part en courant, ça a toujours été un truc très important pour me dire, ok, c'est possible. C'est possible, s'il m'arrive quelque chose, c'est possible. Et je la remercie de m'avoir raconté ça, parce que c'est fondateur, je pense. Et donc, dans le stage d'autodéfense féministe, j'ai trouvé ça, et j'ai trouvé matière à parler de ça avec d'autres filles, et à me dire, ah ouais, ok, toi, il t'est rien arrivé, mais il y en a qui est arrivé des choses, et en fait, leur expérience m'a touchée, comme si ça m'était arrivé, presque. Évidemment, pas pareil, mais... Et là, j'ai vraiment ressenti ce que c'était la sororité, quoi. Être ensemble, entre filles, parler des expériences qu'on a vécues sans se juger et se dire, ok, c'est parce qu'on est une fille que ça nous est arrivé. Et à partir de là, commencer à réfléchir à comment faire pour que ça ne m'arrive pas, pour que ça ne m'arrive plus, pour me comporter différemment, dans un espace très rassurant, très bienveillant. Et là, ça a changé radicalement les choses. C'est-à-dire que j'avais déjà j'étais constructiviste, je savais que on était filles d'une manière et mecs d'un autre, et que ça avait un sens dans la société. Mais là, physiquement, j'ai ressenti un truc.
Vous venez d'écouter Julie. Si vous êtes curieux de découvrir son travail, je vous donne rendez-vous sur www.cafésimone.fr. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. À très vite.